VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, il est 11h en temps universel. Bonjour à tous. 120 personnes, en majorité des Tunisiens, tentant de rejoindre clandestinement les côtes italiennes, ont été secourues par la marine tunisienne, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Défense. Leur bateau a pris de l'eau dans la nuit de mercredi à jeudi au large de l'île de Kerkena. Dans le centre-est, a précisé le ministère dans un communiqué. Les aspirants à l'émigration ont été transférés à Sfax, deuxième ville de la Tunisie, et toute proche de Kerkena, où ils ont été remis à la garde nationale. La tension sociale monte à nouveau au Maroc. Des heurts ont opposé hier des manifestants aux forces de l'ordre dans l'ancienne ville minière de Gerada. Claire Morin-Gibault.
Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ont montré des face-à-face tendues entre la police et les manifestants. Sur Facebook, des militants ont accusé les forces de l'ordre d'avoir chargé la foule. Pour les autorités locales, il y a eu confrontation après que des jeunes cagoulés ont commencé à attaquer les forces de l'ordre avec des jets de pierre. Des médias ont fait état de blessés, mais les autorités n'ont pas publié de bilan. Des protestataires se sont aussi rassemblés devant des puits clandestins d'extraction de charbon proche de la ville. Des hommes sont descendus dans ces puits de la mort pour protester contre l'approche sécuritaire adoptée par les autorités. Gerada est agitée par un mouvement de protestation depuis fin décembre à la suite de la mort accidentelle de deux mineurs dans un puits désaffecté de charbon. De grandes manifestations pacifiques se sont succédées pour demander des alternatives économiques à l'extraction clandestine de charbon.
Les autorités judiciaires libyennes ont émis des mandats d'arrêt contre plus de 200 trafiquants libyens et étrangers impliqués dans un vaste réseau d'immigration clandestine vers l'Europe. Abdourahmane Dia.
Sadiq Al-Sour, le chef du service des investigations au bureau du procureur général, a déclaré que les mandats d'arrêt visent en tout 205 personnes impliquées dans les opérations d'immigration, la traite d'êtres humains, des cas de torture, de meurtre et de viol. Il a précisé que des membres des services de sécurité, des responsables de camps de détention de migrants, ainsi que des fonctionnaires d'ambassade de pays africains en Libye, sont impliqués dans le trafic de l'immigration clandestine. Charles Sour a indiqué que les investigations sur les réseaux de passeurs avaient été menées en coordination avec le parquet italien. Rome et Tripoli avaient convenu en décembre dernier de former une cellule conjointe pour lutter contre les passeurs et les trafiquants d'êtres humains. La Libye, qui a sombré dans le chaos depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011, est devenue une plaque tournante pour des centaines de milliers de migrants africains tentant de rallier l'Europe.
Le dossier de ce journal, à présent en Centrafrique, 10 femmes ont été violées à plusieurs reprises par des membres d'un groupe armé local qui les avait enlevées lors d'une attaque le mois dernier. Les victimes sont arrivées le 3 mars à l'hôpital de Bossangoa où elles sont traitées par le personnel de Médecins Sans Frontières. L'attaque aurait eu lieu le 17 février près de Kiriwiri, un village situé à 56 km de Bossangoa. Nathalie Barge a joint Paul Brocam, le chef de mission de Médecins Sans Frontières en RCA.
Le plus grand problème pour beaucoup de ces femmes, c'est tout simplement manque d'accès aux motos, aux capacités de se rendre à l'hôpital pour se faire soigner. Et les femmes n'ont pu venir à l'hôpital que le 3 mars. Les plus grandes blessures, évidemment, étaient ceux de l'esprit et le soin psychosocial sont très importants pour ces femmes. Mais parlons un petit moment des grands risques des maladies sexuellement transmissibles qui sont un vrai risque pour les femmes qui ont été violées. Le problème là, c'est cet attardement pour pouvoir se présenter pour les soins. Si on peut accéder aux soins en dehors de 2 jours, 3 jours, il y a la prophylaxie contre le sida, contre le HIV, qui est très efficace. À minimiser, voire complètement éliminer la risque sida, mais il faut se présenter au plus vite, si possible immédiatement, après un viol. Même chose pour la contraception d'urgence, qui est plus efficace en dehors de 2 ou 3 jours. Malheureusement, car ces femmes sont toutes venues nous voir après presque 2 semaines, ces traitements n'étaient pas efficaces pour eux, on ne les a pas donnés. Quand même, il y a les autres risques des autres infections sexuellement transmises, qui ne sont parfois pas immédiatement visibles, mais qui peuvent venir si on ne se fait pas traiter. Là, on a pu donner les antibiotiques contre syphilis, gonorrhée, etc. Et on a pu donner les vaccinations contre l'hépatite B et contre le tétanus, ce qui est très important dans les cas.
Alors MSF rappelle évidemment que malheureusement il y a beaucoup d'autres femmes qui se font violer et qu'il est très difficile justement pour elles d'accéder à des soins. Comment procédez-vous et que préconisez-vous pour soutenir ces femmes et ces jeunes filles qui pourraient se faire violer?
C'est vrai qu'il est clair dans tous les rapports des 10 femmes que nous avons pu soigner jusqu'ici, il est clair qu'elles disent tous qu'il y avait beaucoup d'autres femmes qui ont été violées. Notre réponse, c'est d'augmenter notre sensibilisation sur l'axe et nos équipes bougent parfois sur l'axe pour les sensibilisations. Il y a aussi beaucoup d'autres ONG avec lesquelles nous travaillons plus ou moins dans un cadre de renforcement de accès aux soins pour les victimes de violences sexuelles. Hormis cela, c'est difficile à savoir qu'est-ce qui peut être fait parce qu'il y a beaucoup de besoins dans la zone et la sensibilisation, le renforcement des postes de santé et les centres de santé villageois. Ça, c'est vraiment un besoin, non seulement là dans le Nord-Ouest, mais aussi partout dans le pays.
Le dossier de ce journal, Paul Brockmann, chef de mission de Médecins sans frontières en République centrafricaine. Gouvernement et syndicats au Tchad sont parvenus à un accord mercredi soir pour mettre fin à la paralysie du secteur public en grève depuis fin janvier suite à des mesures d'austérité nationale. Selon le texte établi après 2 semaines de négociations, les salaires de février de la fonction publique seront payés. 31 000 agents de l'État n'avaient pas reçu de revenus en février du fait de la grève. Deux jeunes ont été tués mercredi à Conakry lors de nouvelles manifestations de l'opposition en Guinée. Le chef du groupe parlementaire du parti au pouvoir, Amadou Damaro Camara, a accusé l'opposition de tenter de déstabiliser le régime d'Alpha Condé. Malgré ces tensions politiques persistantes, le Front social a connu une accalmie avec la conclusion, dans la nuit de mardi à mercredi, d'un accord mettant fin à la grève des enseignants qui avait donné lieu à des manifestations. Deux soldats ont été tués, 2 autres blessés mercredi au Nigeria dans le conflit foncier opposant éleveurs et agriculteurs dans l'état central du plateau où 25 personnes avaient été massacrées en début de semaine. Des renforts militaires appuyés par des avions de chasse avaient été déployés ces derniers jours pour contenir les affrontements violents entre des éleveurs peuls et des paysans du groupe ethnique Irigoué dans la région de Bassa, selon un porte-parole de l'armée nigérienne.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
À Washington, il est 7h07. Un convoi d'aide alimentaire est entré jeudi dans l'enclave rebelle assiégée dans la Ghouta orientale. Près de Damas, il s'agit d'un convoi conjoint du CICR, du Croissant-Rouge syrien et de l'ONU, composé de 25 camions avec 5 200 colis alimentaires et 5 220 sacs de farine destinés à 26 100 personnes. Il s'agit de la 3e livraison d'aide en 10 jours pour la ville de Douma, dans le secteur nord de l'enclave rebelle morcelée par l'offensive du régime qui se poursuit sans relâche depuis le 18 février. Le Kremlin a dénoncé jeudi la position absolument irresponsable de Londres après l'annonce par le Royaume-Uni de sanctions liées à l'empoisonnement d'un ex-espion russe en Angleterre, soulignant que la riposte russe répondrait au mieux aux intérêts de la Russie. La position de la partie britannique nous semble absolument irresponsable, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, au lendemain de l'annonce par la première ministre britannique, Theresa May, d'une série de sanctions contre la Russie, dont l'expulsion de 23 diplomates. L'armée israélienne a frappé au moins une position du mouvement islamiste palestinien Hamas dans la bande de Gaza ce matin, en représailles à l'explosion de plusieurs engins explosifs le long de la frontière. Israël, le Hamas ainsi que ses alliés observent un cessez-le-feu tendu de part et d'autre de la barrière depuis la guerre de 2014, la troisième en 6 ans dans l'enclave dirigée sans partage par le mouvement islamiste, l'un des grands ennemis d'Israël. Cette trêve est régulièrement ébranlée, notamment par des tirs de projectiles en provenance du territoire vers Israël, qui riposte systématiquement en prenant possible des positions du Hamas, même si les roquettes sont communément attribuées à d'autres groupes. Et puis, le gouvernement colombien et la guérilla de l'ULN reprennent aujourd'hui à Quito pour parler de paix que Bogota avait suspendu le 10 janvier en raison d'une série d'attentats de l'ULN. La délégation de l'armée de libération nationale, la guérilla guevariste, a confirmé cette reprise dans les mêmes termes sur Twitter. Prochain journal dans 50 minutes, ce sera en compagnie de Henri Francis, Jean-Roger Villon. Bon après-midi.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.